Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous en mode écoute, car la vie est dans l'écoute. Le vendredi dernier, l'échange avec les frères s'était porté sur l'écoute. Et la qualité de l'écoute détermine nos lendemains. Et quand Dieu dit à Israël, écoute Israël, parce que Dieu savait très bien que le péché était introduit dans le monde, à cause d'une mauvaise écoute. Adam et Ève avaient prêté leurs oreilles là où il ne fallait pas. Et c'est par les oreilles que la vie revient. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande d'écouter. Et d'écouter comme des disciples. Et c'était la prière de Isaïe. Seigneur, accorde-moi une oreille comme une oreille des disciples, afin que j'entende. Voilà, je me mets au bénéfice de la prière de notre sœur Clémence, qui a bien introduit le sujet. On va lire. On n'a pas le temps de lire la parole, mais voilà, c'est la première fois que je vais lire la totalité du chapitre. Nous sommes dans le chapitre 11 de Jean. Écoutez. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Souvenez-vous que dans Luc, il était question de Marthe et de Marie. Verset 2. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière du monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Écoutez bien cette parole, hein. Il y a des clés dedans là. Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Dans certaines versions, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux, ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Ça peut nous arriver. Quand la Bible parle parfois, nous n'entendons pas la même chose. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme ou jumeau, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Pauvre Thomas. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, c'est-à-dire 3 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Oui, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voilà ce qui a été dit ce matin. Crois-tu cela? Et il lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Et dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Et lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, encore, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, et elle et Juifs qui étaient venus avec lui frémirent en son esprit, il fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Imaginez Jésus qui est en train de pleurer. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait !» Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Là, il y a deux versions là. Il y en a qui ont des paroles positives, il y en a toujours qui sont là pour essayer d'envoyer les pics. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur de mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois et tu verras la gloire de Dieu ?» Et ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Et c'est la parole de Dieu. Je l'ai lu en totalité pour que nous ayons le contexte. Pour la gloire de Dieu. Peut-être au milieu de nous ce matin, il y a des gens qui traversent des moments difficiles, confrontés à une maladie pour laquelle ils ont prié, qu'ils ont de la peine à voir le bout du tunnel. Ou une promesse que Dieu vous a faite et qui tarde à se matérialiser. Que dirais-je encore ? Tant de choses. Un garçon qui continue à habiter chez maman à l'âge de 35, 40 ans, et la maman se met à s'inquiéter si vraiment il se marierait. Il y a des filles aussi qui aspirent à trouver un foyer, et surtout pour les filles, c'est rédhibitoire au-delà d'un certain âge. On ne peut plus avoir la possibilité de donner naissance à un enfant, donc il y a une sorte de pression. On voit que partout, c'est pareil. Alors, dans mes lectures, je suis tombé sur un texte que j'aimerais partager avec vous. Ça vaut rien, mais ça vous permet de comprendre là où je vais aller. Je connais un jeune président d'un grand pays qui a pris sa retraite à 55 ans, alors qu'il était devenu président très jeune. Et j'en connais un qui est devenu président à 70 ans. Allez comprendre. Dans le Pacifique, il y a 12 heures de décalage et Hong Kong, il y a 6 heures par rapport à la France. Mais la France n'est pas dans la lenteur. Elle continue à fonctionner. Le jeune Matteo a obtenu son diplôme à 22 ans, mais il lui a fallu 6 ans pour qu'il trouve un travail stable. Steve est devenu PDG à 25 ans. Il meurt à 50 ans. Alors qu'un autre est devenu PDG à 50 ans et il vit encore 90 ans au-delà. Quelqu'un est encore célibataire alors que l'autre est marié. Vous voyez, tout le monde fonctionne en fonction de son propre fuseau horaire. Les gens autour de toi pourraient sembler être en avance et certains pourraient sembler être en retard. Restez focus sur ta trajectoire. Vous venez de voir là que le temps est une chose abstraite, que chacun vit différemment. Trop lent pour les uns, trop rapide pour d'autres, pas le bon moment pour certains, plus tard encore pour les uns ou plutôt pour d'autres personnes. Rares sont les fois où nous sommes satisfaits du timing de la vie et pourtant, tout arrive au moment où il se doit. Lorsque on laisse le contrôle entre les mains du Seigneur. Voilà, ce texte que je viens de vous lire va comporter 4 leçons qui nous permettra de voir comment Jésus va réconcilier le temps humain avec le temps de Dieu. Nous avons parlé du temps. Qu'il y a le temps où les choses créées représentent un espace où les choses créées fonctionnent. Et il y a un temps qui est celui de Dieu où il n'y a pas de succession d'événements. Tout semble établi, stable, sans changement. Et c'est ce temps de l'éternité. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que les 4 évangiles retracent Jésus de manière différente. Matthieu va s'employer à décrire Jésus comme le roi des Juifs. Marc va parler de Jésus en tant que serviteur de l'Éternel. Parce que je crois que le moment où l'Évangile a été écrit, au moment où Jésus était venu, Israël était sous la domination des Romains, martyrisé, maltraité, assujetti. Et ils espéraient la venue d'un serviteur qui peut délivrer ce peuple. C'est ce que décrivait Marc. Luc l'intellectuel, je vous rappelle au passage que Luc, il n'est pas juif, il est grec. L'intellectuel du milieu des disciples, lui, il va décrire Jésus en tant que fils de l'homme, l'homme avec grand H, c'est-à-dire le prototype de l'homme voulu par Dieu, sans péché. C'était comme ça que Dieu voulait l'homme. Et Jésus est venu pour montrer cette image. Et lorsque Jean est en train de décrire Jésus, il y a comme si il y a un fond sans fin. Il nous projette très loin dans l'éternité. Et voilà la confrontation du temps humain et du temps de Dieu va se matérialiser devant cette scène-là. La maladie de Lazare n'est pas pour la mort, c'est pour voir la gloire de Dieu. 4 faits majeurs ressortent de cet épisode. Un épisode insolite qui n'est retracé que par Jean. Et il nous apprend 3 ou 4 leçons. Je vais en décrire suffisamment 3, mais le quatrième est plus subtil. Pour les esprits les plus approfondis, ils vont le saisir. Et ces 4 événements vont nous montrer qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne. Car dans Marc chapitre 11, verset 22, Jésus dira « Ayez la foi de Dieu ». Quand il dit « Ayez la foi de Dieu », il veut montrer la nature de la foi, parce que nous avons tous la foi, mais ce n'est pas la foi chrétienne dans le monde. Mais la foi chrétienne, elle est autre chose. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça montre l'origine de la foi, la nature et l'origine en même temps, la foi de Dieu. Si nous voulons vivre avec le Seigneur, il faut que nous ayons sa foi à lui pour être en lien avec lui. Donc face aux circonstances de nos vies, qui appellent parfois la patience, et de l'autre côté, avoir un regard juste et vrai sur la nature de Dieu, l'Éternel. Et ces 4 faits sont les suivants, ou 4 leçons que nous allons voir. Le retour de Lazare à la vie, l'apparent retard divin. Je dis apparent. Dans les circonstances difficiles de nos vies, pour lesquels nous soupirons derrière l'intervention de Dieu. Le troisièmement, comment Jésus s'y est pris pour briser l'étreinte de la mort, pour marquer son autorité et ramener Lazare à la vie. Il y a une clé là. Et quatrièmement, c'est par là où je vais commencer, les souffrances de ceux qui font l'objet de l'amour de Dieu. Souvent, on écoute l'évangile que quand on devient chrétien sur le tapis rouge, tout ce que vous demanderez à Dieu, vous le verrez, vous n'aurez pas de difficultés. Ce n'est pas le message qui vient de la part du Seigneur. Notre attachement à Jésus ne nous épargne pas les difficultés de l'existence. Voilà une famille qui est profondément attachée à Jésus. Elle jouit d'une communion intime avec lui. Rien qu'à voir Marthe et Marie, comment l'une est en train de travailler, l'autre est assise au pied de Jésus pour écouter le message de la vie. Et c'est cette petite famille bien-aimée de Jésus est frappée par un malheur. Cela n'empêche pas que malgré l'amour que Dieu nous porte, que nous soyons amenés à traverser des moments difficiles, de souffrances diverses et variées, de maladies, des attentes interminables, des situations pour lesquelles on se dit « Mais Seigneur, tu es tout puissant, pourquoi la situation n'a pas changé ?» Et cette conception de Dieu nous met la pression et nous fait voir les choses autrement. Comme tu es tout puissant, mais agis, pourquoi tu attends ? Devenir enfant de Dieu, nous ne nous épargnons pas les épreuves. Bien au contraire. Et c'est souvent quand on devient enfant de Dieu que les choses semblent s'acharner sur nous. Mais je crois qu'il y a certains qui comprennent là où je vais arriver. Accepter Jésus comme sauveur et Seigneur déclenche contre le chrétien les assauts du sous-monde qui veut nous intimider et nous faire regretter notre choix de Jésus. Mais il ne faut pas lâcher, parce que vous n'êtes pas seul. Donc les problèmes qu'ont vécu cette petite famille peuvent encore arriver aux enfants de Dieu fidèles, comme vous et moi, nous voulons rester derrière le Seigneur. Mais il y a une question qui surgit. Pourquoi le chrétien souffre-t-il? Ah, ça c'est l'éternelle question. Difficile à répondre. Lorsqu'on voit la vie de Job, on voit la vie de Joseph, on voit la vie de Jérémie, même Paul, on se dit, mais pourquoi les chrétiens souffrent-ils? Interminable question. Mais cependant, il y a quelques éléments de réponse qui nous permettent parfois d'affronter l'adversité qui se déclenche contre nous si nous savons l'une de ces quatre ou six raisons. Je vais vous en donner. On souffre à cause d'Adam et Ève. Et ça, ce n'est pas une nouveauté. Notre sœur nous avait développé dans le livre de Genèse cette situation. Quand le péché est entré dans le monde, les douleurs, les conflits, les peines, les maladies, la mort a envahi la vie de tous les êtres humains. Ça, ce n'est pas démontré, nous le savons. Mais pourquoi le croyant, lui, souffre-t-il? C'est la question. Si l'ensemble des hommes souffrent, mais pourquoi le croyant, lui, qui appartient à Dieu, souffre-t-il? Il souffre à cause des conséquences de ses mauvaises actions. Déjà ça. Dieu a dit que je ne tiens pas le coupable pour innocent. La vie fonctionne selon la loi de la semence et de la moisson. Vous semez, vous récoltez. Vous semez le péché, vous en avez les conséquences. Sauf que quand on est enfant de Dieu, on ne paie pas totalement les conséquences de nos actes parce que la grâce de Christ a arrondi. Il peut parfois alléger les conséquences de nos souffrances. Troisièmement, le chrétien peut souffrir par solidarité de la race humaine. Les bêtises d'un individu peuvent avoir des répercussions chez nous. Il suffisait que quelqu'un dans un cabinet médical se livre à l'apprenti sorcier qui laisse échapper des virus et qui est reparti dans le monde. Et ça, les chrétiens ne sont pas épargnés. Le Covid qui vient d'avoir lieu, il y a des enfants de Dieu aussi qui étaient passés et qui ont perturbé parfois beaucoup l'équilibre de certains. Mais si c'est là la fin du monde où les événements dont parle la Bible sont en train de se manifester et que les chrétiens meurent, quel serait mon cas à moi? Beaucoup de gens étaient dans l'angoisse. Donc le chrétien, en raison de la race humaine, ne souffre pas solidarité. Il peut souffrir d'un acharnement diabolique. Puisque tu as choisi d'aimer Jésus, tu vas voir ce que je vais te faire. je vais te faire baver jusqu'à ce que tu lâches Jésus. Dans notre communauté, on n'est pas très habitué à ce genre de choses. Mais je vous affirme que le monde spirituel existe. Et la bataille de l'esprit existe. Les gens, par excès de langage, parlent de combat spirituel, mais c'est un faux mot. C'est la bataille de la foi. Le but, c'est que l'ennemi veut mettre la pression sur toi pour que tu lâches la foi. C'est à cause de cette foi que tu as que le diable est en train de chercher pour que tu le lâches. Mais si tu le gardes, tu vois la main du Seigneur. Jésus a été confronté à cela. Et la bataille est une bataille des Écritures. La Bible dit ceci, Jésus a dit qu'il est écrit. Et c'est pourquoi notre connaissance de la parole de Dieu apparaît indispensable. Cinquièmement, il existe d'autres raisons, beaucoup plus positives, qui expliqueraient les souffrances du croyant. Mais ça, je ne m'étale pas. Dieu lui-même peut utiliser, pour la sixième raison, utiliser la souffrance de notre existence comme un catalyseur pour notre croissance, hein, pour notre transformation spirituelle, pour nous faire avancer dans les causes du royaume. Pourquoi ? Parce que la chair est très épaisse, notre vieille nature. Et la souffrance vient parfois pour limer de manière progressive jusqu'à ce que la chair soit rien, de manière à ce que nous puissions percevoir avec une sensibilité spirituelle le monde de Dieu. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe derrière, parce qu'il y a un grand mur là. Mais si le mur devient fin, vous pouvez voir ce qui se passe derrière. Et donc la souffrance, Dieu le permet pour que notre nature humaine, la vieille nature d'Adam, qui a un autre langage, qui a une autre sensibilité, et qui brouille parfois le radar de Dieu, que cette nature soit limée, nettoyée, allégée, de manière à ce que nos sens spirituels soient capables d'écouter la voix du Père. Si on n'écoute pas la voix de Dieu, c'est que la chair prend la place, raisonnement, ça gronde à l'intérieur de nous, et ça fausse notre perception de choses de Dieu. C'est pour ça que nous devons considérer comme des sujets de joie les épreuves dans lesquelles nous sommes, dit Jacques. Car les épreuves nous travaillent, nous modèlent, nous amènent progressivement dans les lignes de la limite de Dieu. Nos pensées sont suspendues à Dieu. On ne comprendra pas tout. Mais pour ce qui est sur la terre, dans des moments critiques, le Seigneur ne peut pas nous lâcher. Il nous parle. Et la Bible dit dans Job, chapitre 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, ou tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui n'y prend point garde. Et donc, la souffrance va dans cette direction. Voilà ce que je voulais vous parler de la souffrance. Le deuxième point, c'est le retard divin. Le retard de Dieu n'est pas un retard. Les notions d'éphémère et d'éternité coexistent dans la Bible. Dieu, en tant que créateur, vit au-dessus du temps. Là, on est d'accord. L'homme, simple créature, est assujetti au temps et soumis à ses pressions. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, on a l'habitude de le dire. Alors, dans quoi observe-t-on le retard apparent de Dieu ? L'exaucement d'une prière qui tarde ? La longue durée d'une épreuve, maladie, doute, nous introduit. Souvent les épreuves, ah, suivez-moi bien, ce sont des situations parfois créées par l'ennemi pour nous placer dans une situation de carence ou de crise où plusieurs solutions vont se proposer. Et dans l'ensemble des solutions qui nous seront proposées, il y a une qui est celle de Dieu. Et il y en a plusieurs qui sont celles de l'ennemi. Et souvent quand on est pris par la pression, et qu'on n'aime pas souffrir, c'est là où je vais noter au passage, et que vont sortir des situations difficiles par n'importe quel moyen, y compris les artifices, on va capter une solution qui est celle du diable. Et nous sommes dans le tourbillon. Pendant un an, deux ans, trois ans, on ne voit pas le bout. On recommence encore à nouveau. Voilà pourquoi la vie de certaines personnes comme désert, ça tourne en rond. Ça ne progresse pas. Et c'est là où nous devons être calmes, sereins, en sachant que Dieu est au contrôle. Rien que cette idée-là, vous pouvez le savoir. Alors, je vous rappelle ce matin que la puissance de Dieu n'est pas contre vous. La puissance que représente Dieu n'est pas contre nous, il est notre Père. Cette puissance est mise à votre profit, même si nous sommes faibles et même si parfois nous sommes désobéissants. Dieu n'est pas là pour nous écraser.
Il est là délicatement pour nous ramener dans notre direction. Même si on a de mauvaises pensées, il viendra être à nos côtés pour essayer de rétablir nos pensées comme il fallait. C'est de ce regard-là que nous devons voir le Père. Et quand nous avons cette certitude de ce regard doux et aimant, alors là, quelles que soient les bourrasques qui viennent contre nous, nous nous agrippons à lui. Et rien ne peut nous être détaché. Des promesses parfois qui tardent à se matérialiser. Ils nous placent sous tension, surtout dans ces temps qui courent. On veut qu'à un certain âge, certaines choses soient faites. Si ça n'a pas été fait, Mais on le fait par rapport à qui? Donc on voit que dans chacun, il y a un schéma d'échéance du temps que nous nous fixons. C'est nous qui fixons les échéances. Ce n'est pas le temps de Dieu, c'est le temps des hommes. Quand on fixe les échéances, on fixe une possibilité de pression. Et quand on s'approche de l'échéance et que rien ne fait, alors là, ça commence à bouillir dans nos cœurs, de partout. On recherche à gauche, à droite, où est la solution. Et souvent, on s'agite que Dieu se tait, il se calme. Alors, je me souviens, quand j'étais jeune, on appelle ça les flambeaux chez les protestants. C'est l'équivalent des scouts ici. On a marché pendant 3 ou 4 heures dans la brousse et on est arrivé à un point d'eau. D'abord, le chef nous a dit, gare à vous, je veux voir la personne qui va être le premier à boire de l'eau. Restez là à côté pendant 1 heure, à mon signal, vous allez boire. C'est une histoire de nous apprendre la maîtrise de nous-mêmes. C'est une positive. Et après, on est arrivé à un point d'eau et une grande rivière qui coule. Sous la pluie, l'hivernage, il y a eu une crue. Et les abords étaient glissants. Et on venait s'asseoir pour essayer de prendre un peu de l'oxygène. Voilà que l'un de nous qui ne savait pas nager, boum, il est tombé dans l'eau. Il commence à se débattre. Et ce fleuve-là, ça foisonne hein, de bêtes. Alors il a appelé Barnabé. Barnabé, regarde, il y a Philippe qui tombe et va le chercher. Ah, Barnabé s'en fiche. Pendant 10-15 minutes, l'autre dans l'eau, il se débattait au début très fort. Et petit à petit, sa force s'amenuise, on voit qu'il ne touche plus l'eau. Et c'est là, l'autre, il s'est plongé dans l'eau, il a nagé, il a pris par le cou comme ça. Là. Il l'a amené jusqu'au bord. Et le soir, quand on voulait manger, il va falloir qu'on libère nos cœurs. Hein. Le chef a prié, mais les enfants n'ont pas voulu fermer les yeux parce qu'ils refusent de ce qui s'était produit. Il faut qu'ils donnent l'explication. Comment se fait-il qu'on t'a appelé d'aller prendre l'autre qui est en train de se noyer et toi, tu t'en fichais jusqu'à ce que tu décides par toi-même, tu te prends pour qui? Il a dit, c'était la meilleure façon de faire. Si j'étais tombé aussitôt, il a toute sa force, il va m'agripper et on partira tous les deux. Je l'ai laissé qu'il se débatte jusqu'à ce que sa force soit épuisée pour que je puisse le libérer. Il est là, c'est lui qui est en train de manger là. Exactement, Dieu nous fait pareil. Quand devant un problème, vous vous débattez beaucoup, Dieu croise les bras, il reste tranquille. Vous courez à gauche chez le frère, vous courez à gauche chez la sœur, vous allez à gauche là-bas, vous revenez. Vous criez toutes les misères du monde, Dieu se tait et croise les bras. C'est quand vous aurez épuisé de bouger, c'est là où il intervient. La Bible oppose souvent l'immédiateté du désir humain au timing parfait du plan de Dieu. Notre mode de vie, dans une société où tout va vite, met chacun de nous sous pression permanente. Cette pression qui s'exerce sur nous déforme notre vision de Dieu. Nous voulons tout de suite, comme tu es puissant, tout puissant, tout de suite. Mais non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si Dieu tarde dans sa réponse, il sait pour quelle raison il tarde dans sa réponse. D'abord, le retard par rapport à qui? Car je dis que le retard est par rapport à notre échéance que nous nous sommes fixés. C'est l'échéance que nous nous fixons qu'il y a un avant ou un après. Voilà. Et pour Lazare, ses soeurs avaient une échéance. Il était malade. Et il savait que cette échéance-là, c'est quoi? C'est la mort. Alors donc, avant qu'il meure, ils ont envoyé aller chercher Jésus. Va vite! Il paraît qu'il est de l'autre côté de Jérusalem, là, va le voir, et il vient, il y a Lazare qui est malade. Ils avaient l'espoir que Jésus arriverait même avant. que les ânes meurent. Mais voilà, notre cher ami, il est passé 2 jours. Et il y a encore 2 jours, ça fait 4 jours. Vous allez dire, mais Seigneur, tu nous aimes et toi, tu t'en fais pas de nous, quoi. Tu ne vois pas que je suis en train de couler, là. Tu ne vois pas le problème devant lequel je... Mais quel est cet amour-là? Tu dis que tu m'aimes et tu fais l'indifférent. Et c'est exactement ça. On aurait traduit de cette manière-là. Je ne sais pas quel est le ton avec lequel Marthe et Marie, ils ont utilisé deux phrases identiques. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas. Est-ce que c'est un reproche ou une supplication? Je ne sais pas. Là, je n'ose pas parce que la Bible ne le dit pas. Mais ça pourrait être aussi un reproche. On est appelé te chercher, toi tu passes tout ton temps et puis tu viens. Bon, il a déjà clamsé, il est mort. Et d'abord, Jésus commence à discuter avec ses disciples. Il a dit que Lazare, il s'est endormi. Jésus n'a pas voulu s'enfermer dans la réalité des hommes, parce qu'il sait que lui, il est le pouvoir de la parole. S'il dit que Lazare est mort dans un langage humain ou spirituel, ça y est, il se serait fermé la porte d'exercer une autorité. Il s'est dit que Lazare s'est endormi. Parfois, nous nous enfermons dans des situations à cause de ce que nous disons. Nous ne prenons pas le langage de Dieu. Bon, je vais y arriver. Attendez. Soyez forts, il est dit quelque part. Attendez le Seigneur. C'est très encourageant, ça. Attendez le Seigneur. Dieu ne vient jamais trop tard. On dit que les carottes sont cuites et c'est fini. Dieu a dit non, non, non. Les carottes ne sont pas cuites. Voilà. C'est fini, là. Mais Dieu a dit non. Et ce verset nous rassure de Somme qui dit, attendez, prenez courage, Dieu interviendra. Somme 27, verset 14. Son retard n'est pas le signe d'un manque d'amour, mais son retard, c'est le signe d'une profonde affection, parce qu'il sait qu'à travers cet événement, il veut leur enseigner quelque chose qu'il n'aurait pas enseigné si cet événement ne se serait pas produit. Il va enseigner au monde et il va enseigner aux disciples en même temps. Et Jésus va se montrer Seigneur de la mort. Et c'est le point le plus culminant de cet épisode. L'illustration de la puissance de Jésus sur le dernier de notre ennemi, la mort. La mort est l'arme la plus puissante et la plus terrifiante que le diable manipule. Pour nous faire renoncer Jésus-Christ, on propose la mort. Si tu renies Jésus, bon ben, tu as la vie sauve. Mais Jésus a dit quelque part. Et la crainte de celui qui est capable de tuer l'âme et de tuer le corps. N'ayez pas la crainte de celui qui s'acharne que sur le corps. C'est le corbeau qui s'acharne sur le corps. Notre corps n'est qu'un véhicule. Notre corps n'est qu'une tente passagère. Notre vraie nature à nous, c'est l'homme intérieur et la femme intérieure qui est à l'intérieur. Et c'est celui-là qu'il faut préserver. Et Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Et il y avait un dialogue entre lui et Marie qui ne semblait pas très très bien. Jésus a dit que je vais le ressusciter. Et Marie dit que oui, je sais. Marthe dit que oui, je sais. Et qu'il le ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus ne s'était jamais présenté comme résurrecteur. Jésus ne s'est pas proposé avant sous cette nature-là. Comment il a appris? La nature de Christ va intervenir après. Comment il a appris ça? Mais quand elle a cette compréhension, ça la projette très loin par rapport à ce que Jésus veut faire maintenant. Donc il y a une incompréhension, un décalage entre « mon frère ressuscitera » et ce que Jésus entend faire. Et donc, il faut être vraiment en synchronisation avec la pensée du Seigneur. Mais souvent, ce n'est même pas nécessaire. C'est la souveraineté de Dieu qui intervient. Mais Jésus va les amener petit à petit à comprendre. Jésus veut se montrer qu'il a l'autorité suprême sur la mort. Parce que la mort, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, et il y a la seconde mort, il y a plusieurs morts. Et même dans notre vie de tous les jours, il y a des domaines qui sont déjà des domaines déjà morts. Il y a des domaines qui sont déjà morts. Je l'ai déjà expliqué, mais je le redis encore, pour votre hygiène spirituelle. Lorsque vous commettez une faute et que vous ne demandez pas pardon, Votre esprit dans le domaine de la faute que vous n'avez pas confessée n'est plus sensible à la voix de Dieu. Et si d'une faute, vous ne confessez pas, il y a la mort. D'une faute, vous ne confessez pas, ou vous confessez mal, il y a la mort. D'une faute, vous ne confessez pas, il y a la mort. Vous allez voir que dans le domaine de votre vie, il y a des insensibilités qui s'installent. Et vous n'écoutez plus la voix de Dieu. Ah oui, Dieu parle, mais vous n'écoutez plus. Parce qu'il y a une sorte de mort qui s'est installée à cause des péchés non confessés. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Quand on commet une faute, il faut aussitôt s'en libérer pour garder le ciel ouvert et le contact permanent avec Dieu. Que les canaux ne soient pas bouchés. Beaucoup des canaux sont bouchés à cause de ça. Alors, j'en termine avec comment affronter la mort par Jésus. Je l'ai déjà dit, mais je reviens encore. Jésus a dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Il est pour la gloire de Dieu. Mais Seigneur, s'il dort, tu vas le réveiller. Jésus a dit, écoutez, votre Lazare là, il est mort, si vous voulez, dans votre langage. Mais c'est mieux que je ne sois pas là, parce que cette mort va manifester la gloire du Fils. Et Jésus est allé devant le tombeau. Il y a des gens qui sont morts avant. Hein. Nous avons examiné pendant la fête de Noël ou le Vendredi Saint que lorsque Jésus était mort à la croix, la terre a tremblé. Les tombeaux se sont éventrés. Les morts sont revenus à la vie. Mais ces gens qui sont revenus à la vie sont morts à nouveau cette fois-ci. Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont connu la résurrection. Dans le Nouveau, il y en a trois. Ça en fait partie, Lazare. Mais ceux qui sont morts, ils sont encore morts à nouveau. En sorte que ce soit Jésus qui soit le prémisse de la résurrection. Il veut montrer son autorité sur la mort. Il s'est tenu devant le tombeau. Il a appelé Lazare par son nom. S'il n'avait pas appelé Lazare, c'est tous les morts qui vont se ressusciter. Mais Jésus veut faire une démonstration unique sur Lazare. Il a dit, Lazare, la voix de Jésus est allée l'outre-tombe. La mort s'est enfouie, il a lâché Lazare. Lazare est revenu à la vie. Mais comme selon la tradition moyenne-orientale, quand quelqu'un meurt, on l'embaume et puis on l'entoure. Le mort est revenu à la vie, mais il est complètement bandé. Ses yeux ne sont pas ouverts. Et ça, c'est aussi un indice sur le plan spirituel. On peut revenir à la vie dans la foi. On peut avoir le salut. Mais cependant, notre vie ne prospère pas parce qu'il y a des liens à gauche, à droite, des addictions, des choses auxquelles nous sommes esclaves, qui nous retiennent et qui ne nous permettent pas de voir Dieu comme il fallait. Et ça, il fallait que ça sorte, ça soit délié. Et parfois, il y a des gens qui disent que voilà, au nom de Jésus, soit délié. Ce n'est pas ça. Délié signifie écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous écoutons jour après jour, qui petit à petit travaille dans notre vie et qui nous libère. En changeant notre nature, nous nous libérons. C'est ça. Il y a deux choses qui peuvent faire en sorte que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est que la nature de Christ en nous, quand il est en nous, ça nous libère de tous les liens de l'ennemi. Et ça ne se fait pas en un seul jour. Parce qu'il y a des délivrances qu'on fait de manière instantanée, mais si la vie de personne ne change pas, les démons reviennent encore à nouveau. Et ils reviennent plus encore, au chiffre multiplié par 7. Et les conditions de ces gens-là sont plus difficiles. La vraie délivrance, c'est écouter la parole de Dieu. Et y obéir. Le diable n'aime pas l'obéissance à la parole de Dieu. Laissez-moi vous le dire. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons des religieux. Le diable n'aime pas l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que Samuel Cabot se trouve dans un garage qu'il est une voiture. Ce n'est pas parce que je suis à l'église que je suis chrétien. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le diable n'aime pas que nous soyons à l'image de Christ. Il ne veut pas. Et il va utiliser le raisonnement humain. Il va utiliser la nature humaine. Il va utiliser les logiques humaines. Il va utiliser même notre nature qui n'est pas morte pour régimber contre la vérité du Seigneur lorsque le doigt de Dieu tombe sur nos péchés. C'est pour ça que Dieu ne peut que conduire que ceux qui sont humbles, ceux qui se laissent conduire par lui, pour la gloire de son nom. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Entre les promesses et la réalisation des choses de Dieu, il y a le facteur temps. Soit le temps est un obstacle, ou soit le temps est un ami. Le temps devient ami si tout est sous le contrôle de Dieu. Le temps devient un obstacle si c'est nous qui prenons le contrôle. Parce que lorsque nous avons le contrôle, nous avons la pression sur nous. Mais si nous transférons le contrôle à Dieu, Nous sommes tranquilles.
Dieu fait les choses en son temps. Et la Bible a dit que Dieu fait bien les choses en son temps.
Ne te précipite pas. N'entrave pas le plan de Dieu
en forçant les choses.
Tout ce que fait Dieu est parfait en son temps, car il commence une chose et il l'accomplit parfaitement.
Avec le temps, tout vient à l'évidence. On dit que le temps aussi perd de la vérité. Avec le temps, tout mûrit. Avec le temps, notre nature se bonifie. Avec le temps, c'est avec le temps qu'une germe pousse. Et on voit la nature de ce qu'il produit. Le temps est indispensable. Rachetons le temps. Ne laissez pas passer les choses. Et là, nous avons vu que le temps humain et le temps de Dieu se rejoignent. L'éternité et le temporel se rejoignent. Et ça, c'est la nature du Christ. Il est capable de joindre les contraires. Il est à la fois le lion et l'agneau. Il est à la fois le sacrificateur, la victime. Amen. Voilà, ça c'est Jésus, c'est sa nature. Il est l'humain et le divin en même temps. Il est capable de combiner ce qui est inconciliable pour la gloire de son nom. Vous êtes en difficulté? Ne perdez pas pied. Celui qui est là-bas haut, il est au contrôle de toutes choses. J'ai revu les textes de prédication de ma sœur Clémence sur le livre de Genèse. Et je suis tombé sur un hier que Gérard avait amené à mon épouse. Et j'ai lu un aspect. Tout est sous son contrôle. Tout est sous son contrôle. Ah ouais, vous réveillant le matin, vous dites tout est sous le contrôle de Dieu. Ah ouais, tout est sous son contrôle. Quand vous abordez la vie de cette manière-là, quoi qu'il arrive, vous ne vous lâchez pas. Amen. Je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce message. Et accorde-nous, Seigneur, de nous appuyer sur toi. Donne-nous de sortir de la pression du temps humain pour entrer dans le temps de Dieu. Il y a des situations pour lesquelles nous avons besoin de ta grâce, mais cependant, nous savons que tu le fais. Sois béni. Donne à ce message d'être accueilli et qu'elle produise des fruits dans la vie de mes bien-aimés pour que tous ensemble nous puissions avancer. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.